Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler de temps qui court, qui rencontre les artistes du moment, pendant une heure, tous les soirs. Ce soir, l'autrice Colette Mazabrar.
Un tango, une danse, un baiser.
Ça y est,
je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Colette Mazabrar.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Tu ne sais pas pourquoi tu as recopié cette phrase trouvée tu ne sais plus comment. Le réel, c'est quand on se cogne. Jacques Lacan. À cette phrase, tu te cognes. Le corps souffrant est un corps qui ne s'appartient plus, il est accaparé par les médecins, il est parlé par les autres, il devient le réceptacle de toutes les inquiétudes, de tous les dégoûts, de tous les innocents désirs de mort. Coming out du malade, appeler un chat, un cancer, ce mot, une claque. Ce n'est pas contagieux pourtant, mais il se détourne, gêné. C'est un extrait de votre dernier texte, Colette Mazabrar, publié aux éditions Verdier, un récit des jours qui se suivent et suivent l'annonce d'un cancer et en fait ne se ressemblent pas. Bonsoir à vous, Colette Mazabrar.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, le livre s'appelle « Un jour, on entre en étrange pays » et c'est un livre qui est publié aux éditions Verdier. J'en profite pour glisser que les éditions Verdier fêtent leurs 40 ans d'édition. Grande maison, grand âge, qui a plein de... d'événements, de manifestations, de rencontres, de discussions, dont une au Centre Pompidou à Paris, le 20 mai.
C'est une deuxième personne du singulier que je ne sais pas si on a toujours très bien compris pourquoi c'était la deuxième personne du singulier.
Le tu, c'est un peu vous, parfois.
Le tu, c'est un tu de journal intime. Le tu vient très exactement de...
C'est l'homme qui s'adresse à son miroir.
De l'épigraphe, oui.
C'est ça.
C'est l'homme qui écrit dans son journal. Le tu vient de l'épigraphe qui est de Kafka, qui est... Il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison, reste à ta table et attends, n'attends même pas, non, reste à ta table et écoute, n'écoute même pas, attends seulement, le monde viendra s'offrir à toi comme un serpent, il se roulera devant toi, il ne peut pas faire autrement. Et c'est ce tu-là, cette espèce de forme très directe, de s'adresser à la fois au lecteur, à la fois à soi-même. Et d'une certaine manière, le personnage est complètement dédoublé. À chaque instant, on a cette possibilité. J'avais cette impression que c'était moi qui me parlais. C'est-à-dire, le tu est une espèce de je, tout le temps. Et en même temps, il est l'impression que le lecteur allait le recevoir comme étant à la fois moi et lui. Il y avait une espèce de très grande sympathie entre le personnage, le lecteur et moi-même.
Le tu comme un endroit de grande sympathie entre le personnage, le lecteur et Georges Perec, c'est une archive du 23 avril 1970. Alors je lisais un petit extrait de ce récit, Colette Mazabrar, et très rapidement on le rencontre, ce tu. Vous, il s'est imposé directement, vous l'avez rencontré aussi, c'est le lieu de quoi pour vous l'usage de cette deuxième personne du singulier ?
Je pense que c'est effectivement le lieu d'une communication intime, alors peut-être de soi à soi, de soi à un lecteur, de soi à une enfance, de soi à ce qu'on imagine l'autre, à une mère aussi, parce que j'ai l'impression que ce tutoiement, il est d'un petit cinéma intérieur adressé, depuis toujours celui de la lettre, donc une lettre c'est à quelqu'un qui n'est pas là. On s'adresse quand même à cette personne, mais cette personne nous recevra, si jamais elle nous reçoit, dans un temps où on ne sera plus, où on ne sera plus dans le même état. C'est peut-être aussi j'ai l'impression, le tu, peut-être la radio aussi. Il y a quelque chose de dans la radio.
Pas la radio médicale, la radio médiatique.
Voilà, la radio, comme le lieu où l'on est, où on parle, j'allais dire, d'une nuit à une autre nuit, parce que là, on est dans un studio, un espace qui est comme une boîte, une chambre, et question de bloc dans mon livre. Et j'ai l'impression que ce bloc, il arrive, il est en sympathie, il est en résonance avec le bloc dans lequel la personne reçoit, qui peut être un espace complètement intime, qui peut être une voiture, qui peut être la cuisine. Donc j'ai l'impression que c'est dans le mode de communication de mes deux ouvrages, puisque finalement le tu je l'avais déjà dans les monologues de la boue, on a ce mode de rencontre d'une intimité, enfin d'une absence en fait de quelqu'un qui est absent, qui est et création d'un espace intermédiaire. J'ai un peu du mal à le qualifier. J'ai l'impression qu'il a à voir aussi avec quelque chose de la marche, parce que quand on marche, puisqu'il a à chaque fois question de marche dans mes livres, on est en relation avec un proche, le sol qu'on heurte, la fleur qu'on voit, les escargots qu'on essaye de ne pas écraser, le hanneton qui va faire du bruit dans les feuilles, et en même temps on est en relation avec le lointain de l'horizon qu'on vise du regard, le chemin vers lequel on se dirige. Et en même temps, on est dans l'entre-deux de ces voix intérieures qui sont réveillées par les pas, qui peuvent être la conversation du café qu'on a quitté, qui peut être la lecture qu'on est en train de faire, qui peut être le rêve de la nuit. Toutes ces voix qui nous habitent, notre propre voix, les rêves, etc. Et puis ce qui se passe au présent, enfin, je sais pas, un cri d'animal. Un bruit soudain d'une avalanche qui se déclenche, je dis ça parce que il y a 10 jours j'étais dans les Pyrénées et j'ai entendu le bruit d'une avalanche. Enfin, donc il y a constamment cet entre-deux, en fait, entre l'intériorité de la pensée, de la méditation, de la perte de conscience, parce que souvent quand j'effectue une marche longue, je finis par complètement ne plus savoir quel jour je suis, à quel moment de la journée je suis. Et en même temps, des choses qui viennent d'ailleurs, d'une histoire, parfois avec un grand H, ou peut-être la grande H de Pérec aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espace entre deux, quoi, qui se crée.
Et dans cet espace-là, donc on l'entend, qui est vraiment très vaste en fait, hein, qui est rempli de plein de choses, Colette Mazabrar, quelle place il y a pour l'effet que ça fait de se voir tutoyer par un auteur ou par un texte? Quand je dis quelle place, c'est-à-dire quelle conscience vous avez de nous harponner en disant tu?
Je crois que j'en ai pas trop conscience. C'est vraiment quelque chose de solitaire. Alors c'est vrai que en même temps je publie ces textes, mais c'est vrai que j'ai pas tellement la conscience du lecteur et parfois j'ai même un sentiment un peu d'obscénité à peut-être le harponner ou à lui présenter des choses aussi crues, aussi intimes. Mais que les lecteurs me disent faire écho en eux aussi. Donc c'est vrai que j'en ai pas trop conscience du lecteur. Il est plus personnel, fantasmatique, d'une histoire personnelle ressuscitée en quelque sorte, ou reconvoquée. Mais le lecteur réel qui va aller dans une librairie trouver mon livre, j'en ai pas trop conscience.
Il faut la régler, cette question de l'obscénité. Il faut lui faire un sort pour envoyer ce texte à Verdi ou les monologues de la boue sur un autre registre.
Ben, je pense que c'est. Enfin, je lui fais un sort parce que sinon, je ne m'en sors pas. Sinon, je continue à écrire toujours la même chose. Enfin, même le deuxième livre, j'ai mis du temps avant d'accepter de le publier. Parce que j'espérais passer à une autre forme d'écriture et j'accumule les bribes qui sont toujours les mêmes, quoi.
Mais c'est une déception pour vous que ce texte-là, il ait une forme, j'allais dire similaire, non, mais cousine avec les monologues de la boue?
Bah oui, j'aurais aimé trouver une autre forme. C'est comme si l'histoire n'était pas achevée, quoi. C'est-à-dire que les monologues n'étaient pas finis Et celui-là, de toute façon, il n'est pas fini parce que je continue à faire des bribes avec du tu. Donc, c'est peut-être une histoire sans fin qu'il faut que... Enfin, bon, peut-être que j'écrirai encore autre chose comme cela ou peut-être je passerai à complètement autre chose, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je suis dans une espèce de... d'insatisfaction, peut-être c'est une question de limite que j'arrive pas, peut-être que ces formes fragmentaires de toute façon par définition sont difficiles à terminer parce que c'est une chronique, c'est un journal, donc tant que le temps ne s'arrête pas, enfin on peut continuer à accumuler des bribes.
Quand vous disiez tout à l'heure quand j'effectue des très longues marches, Colette Mazabrard, je ne sais plus très bien quel jour on est, quelle date, finalement depuis combien de temps je marche. Est-ce qu'il n'est pas trop indiscret de vous demander dans quelle temporalité vous avez écrit par rapport à la maladie? Est-ce que vous écriviez au jour le jour? Est-ce qu'il a fallu travailler avec des souvenirs? Est-ce que c'était un carnet à l'hôpital?
Alors, un jour on entre en étrange pays, donc il y a effectivement plusieurs... étapes, pas forcément dans l'écriture, mais dans le livre, enfin comme des sortes de chapitres. Alors les blocs sont vraiment le bout à bout d'un journal écrit au jour le jour pratiquement, ou tous les deux jours, enfin. Et le travail de reprise a consisté à simplement rassembler des bribes qui étaient séparées par des espaces encore plus grands ou parfois séparées par des dessins parce que j'ai tenu un carnet dessiné parce que j'assistais à des cours de dessin et le professeur Raphaël Lard nous invitait à dessiner tous les jours, y compris quand il n'y avait rien à dessiner.
C'est à l'hôpital ça.
Au quotidien. Et j'ai continué cette pratique à l'hôpital. Donc à l'hôpital, je dessinais ce que j'avais sous les yeux, à savoir mes pieds. Mes pieds avec les bas de contention, mes pieds sans les bas de contention, etc. Les draps. Et entre-temps, évidemment, il y avait des pensées que je notais sur un autre carnet. Et la première partie de « Un jour on entre en étrange pays », c'est le bout à bout des textes. Où là, enfin parfois j'ai supprimé des choses, mais ça a été écrit vraiment et au fur et à mesure. La suite a été écrite aussi au fur et à mesure des voyages. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de regard rétrospectif. C'est-à-dire que ce texte a été écrit en 2015-2016. Après, il a reposé. Enfin, j'ai peut-être raccourci. Et puis je me suis décidée à l'envoyer à Verdier tout récemment parce que j'avais pas prononcé le mot cancer vis-à-vis de mon père. Donc j'attendais que le temps passe. Je l'avais pas fait pour parce que c'était un moment dans l'histoire familiale où il y avait beaucoup de personnes qui mouraient du cancer et ça me paraissait compliqué de lui faire comprendre que je n'en mourrais pas.
C'est d'ailleurs assez étonnant de relever à l'instant, là, quand je vous écoute parler, Colette Mazabrard, que dans le passage que j'ai lu en introduction, il est question d'un coming out.
Oui.
Et que appeler un cancer, un chat, ça relève vraiment du dévoilement de soi le plus intime, d'une certaine manière.
Oui, parce qu'il y a le mot fait peur, le mot gêne. D'ailleurs. J'allais dire à l'hospice, enfin j'appelle l'hospice les maisons de convalescence où je suis allée. Il y avait une dame à qui je disais que j'avais un cancer. Elle me dit, c'était une dame qui avait, je sais pas, 70 ans, 80 ans. Elle me disait, mais de notre temps, on prononçait jamais ce mot. Il y a une honte attachée à ce mot.
Une honte ou une peur?
Une honte, une peur, mais j'ai l'impression quand même une honte aussi de peut-être de la maladie. Je sais pas, mais...
Parce qu'un coming out que vous utilisez, c'est vraiment une sortie du placard, comme quelque chose dont on a honte.
Oui, oui. Oui. Mais je pense que ça fait partie... Enfin, je vais déformer son nom, mais Anne Ancelin Schunzberger, enfin quelqu'un qui travaille sur la psychogénéalogie, elle met le cancer dans les hontes, dans les secrets de famille qui génèrent toutes sortes de pathologie familiale ou de souffrance dans la suite. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce... Puis de toute façon, j'ai l'impression parfois les gens, même les médecins disent peut-être qu'il ne faut pas le dire dans un cadre professionnel. Donc il y a quand même une gêne.
Et vous faites l'inverse, puisque ces pages-là sont vraiment des pages de face à face. Dans ce premier texte, toujours, vous dites « les gens se détournent, gênés à la... quand on prononce ce mot ». Et en fait, le texte tend la réalité crue de ce que c'est que d'être hospitalisé, soigné, opéré une fois, deux fois, de recevoir des annonces. Cru, quoi. Ce mot-là revient d'ailleurs à plusieurs reprises, Colette Mazabrard.
Oui, et bon, peut-être aussi, c'était pour me persuader ou pour parce que le cancer que j'ai eu ou que j'ai est très curieux. C'est un cancer qui se guérit par la chirurgie. Il n'y a pas de radiothérapie, il n'y a pas de chimiothérapie. Donc, la différence entre un calcul et un cancer est difficile à percevoir. Si ce n'est que un cancer, on se pose toujours la question de pourquoi on a ça, qu'est-ce qu'on a fait, d'où ça sort, est-ce que ça peut pas revenir. Alors qu'un calcul, on se posera moins de questions. Et je pense que je suis pas sûre d'avoir tout à fait conscience de ce qui s'est passé. Ça revient par cette peur qui est monstrueuse, mais la peur même, je suis même pas sûre que ça soit le cancer qui l'ait généré. Je pense que c'est vraiment la chirurgie qui, chez moi, génère les peurs, puisqu'il y a eu deux chirurgies. Et c'est vraiment, c'est le bloc opératoire, quoi. C'est l'impression de passer par la mort, d'être dépecé entre les mains d'un chirurgien, cette espèce d'hôpital qui est comme une machine avec ses mots, ses rituels qu'il faut apprendre. J'ai l'impression que la terreur, elle vient de l'hôpital et du bloc.
Et quand on écrit, en même temps, il y a le rôle du langage et ce qu'il a à voir ou ce qu'il a à faire avec le réel. S'il n'est pas facile de prendre conscience qu'on est malade, j'ai l'impression, Colette Mazabrard, que l'écrire est une manière de faire entrer ça dans du réel, dans du tangible, d'une certaine manière.
Oui, et puis l'écrire aussi, c'est reproduire cette bataille avec les mots, qu'il y a en permanence dans mes textes ou dans ma vie. Trouver le mot, se poser la question de est-ce que le mot a à voir avec décrit bien la chose, se servir des mots pour... Il y a une image qui revient assez souvent dans le texte ou dans mes fantasmes par rapport à l'écriture, qui est un passage de Tite-Live, une traduction de Tite-Live, quand il raconte Hannibal qui franchit les Alpes. Et donc il raconte des soldats qui sont face à une paroi escarpée et qui se retiennent à des racines qui sortent ça et là pour essayer d'aller plus loin. J'ai l'impression que les mots, j'ai un rapport aux mots, à avancer les mots comme pour pas me casser la figure en quelque sorte, pour pas disparaître ou pour pas me perdre. Et donc,
en bonne marcheuse, c'est un petit pied qui voilà. Tâte que la pierre est pas fourbe, quoi.
Voilà, c'est me saisir du réel, avoir une prise en quelque sorte sur le réel par ces mots. Et puis aussi souvent les mots, enfin c'est vrai que je les décortique avec cette espèce de métaphore. J'avais une prof en hippocane qui disait que c'était une métaphore de cacahuète ou de singe. Mais c'est vrai que...
Ou de crevette.
Souvent, je vais chercher la racine du mot. Enfin, et à l'hôpital, on est constamment face à des mots ou des usages des mots. À un moment, je dis la potence ne pend personne. Parce que c'est vrai que... j'ai découvert qu'on appelait potence l'instrument qui servait à accrocher toute l'espèce de sac avec différents cordons qui viennent nous injecter je ne sais quoi. Donc on est face à une langue qui se dérobe, qu'il faut réapprendre, qui pose problème, quoi, qui pose question, qui est ce réel contre lequel on bute, c'est-à-dire peut-être que ce contre quoi je me cogne, c'est le langage aussi.
Qui est la langue de l'étrange pays. Hein. Un jour, on entre en étrange pays avec aussi son langage propre et des choses qu'on ne maîtrise pas. Je disais que c'est un texte qui voit se succéder les jours, mais aussi les nuits. Et à ce propos, on écoute la voix de Gérard Allaire.
Je me souviens tout à coup d'une phrase de Quignard qui dit « La nuit nous simplifie ». C'est-à-dire que tout ce qui a l'air d'aller de soi, d'être identifiable, d'être solide, d'être là pour toujours, dans le jour, enfin, dans la lumière. Tout à coup, la nuit s'estompe, les choses deviennent plus proches de ce qui nous tient le plus à cœur, d'une forme d'intimité, de simplification, de dépouillement. Et les choses importantes au théâtre ou dans l'écriture ou dans l'art en général, il me semble que ça... C'est pas que ça se passe dans la nuit, mais c'est que ça concerne plus particulièrement ce temps où les choses sont un peu suspendues.
Une nuit où tu ne parviens pas à dormir, tu entends la voix d'un ami, à la radio. Tu es heureuse de l'entendre. Il évoque Rimbaud, la folle liberté libre de Rimbaud, le poète qui cherche un corps nouveau, qui veut posséder la vérité dans une âme et dans un corps. Dans la nuit lumineuse des déserts, l'ami évoque Rimbaud au moment où tu le rejoins dans l'étrange pays du cancer. Il y a les nuits où tu gueules. Tout t'énerve. Tension maximale. Le cri. Vouloir que cesse ce bulletin clinique perpétuel, que cesse la demande de nouvelles, que cessent les projections des autres, les explications de ta maladie, que cessent leurs idées sur ce que tu es censé ressentir, sur ce que tu es censé faire pour surmonter tout cela. Tu n'en peux plus de rassurer les uns et les autres alors que tu n'es pas rassuré. Tu n'as plus envie de messages. Tu les connais d'avance. Les appels au courage que tu as, ils en sont sûrs, à la combativité dont tu as déjà su donner des preuves. Leur confiance en une guérison dont tu peux être sûr. Tu voudrais qu'on se taise, qu'on te berce, tout simplement.
Un extrait de votre texte, Colette Mazabrard. Un jour, on entre en étrange pays, lu par Romain de Becdelièvre, et juste avant, une archive de la nuit, puisque c'est une archive d'une émission qui s'appelait Du jour au lendemain, présentée par Alain Weinstein avec la voix de Gérard Haller. Gérard Haller citant lui-même Pascal Quignard, on n'en finit pas de remonter les échelles, qui est un auteur qui a beaucoup pensé cet espace-là de la nuit. Alors Gérard Haller dit, citant Quignard, « La nuit nous simplifie ». La nuit, elle revient à plein de moments dans votre texte, Colette Mazabrard, des nuits à l'hôpital, aussi des jours et des nuits où on n'est pas joignable parce qu'on est au bloc, et puis ensuite d'autres jours et d'autres nuits où on voyage, où on visite d'autres villes. C'est l'espace de quoi, pour vous, l'espace de la nuit?
Sans doute l'espace des rencontres ou des traversées de frontières, des rencontres ou des voyages dans le temps, parce que j'ai l'impression que dans la nuit reviennent toutes sortes de souvenirs, reviennent les rêves, reviennent effectivement les voix de la radio, et c'est vrai que c'est une des magies, ces nuits radiophoniques de France Culture. On voyage dans le temps, on voyage dans les souvenirs, on voyage, par exemple, reviennent, il me semble, dans mon livre, des nuits de voyage en bus en Inde, où on voyageait, parce que j'ai vécu 9 ans en Inde, donc je voyageais très souvent par des bus de nuit, ce qui était la banalité là-bas. Et donc on est entre sommeil et veille, parce qu'en permanence, il y a un chaos qui vient, le bus nous secoue. C'était des voyages où, je crois que je fais allusion à un voyage où je traversais le Bihar.
Donc, qui est un état en Inde.
Oui, qui est un état.
Est-ce qu'on pourrait l'entendre différemment quand on parle de l'hôpital?
Qui est traversé. Ah oui.
qui n'est pas le Bihar, mais qui est donc le Bihar.
qui a un état où, je pense que c'est toujours le cas, il y avait toutes sortes de guérillas, de checkpoints, il y avait même des bandits de grands chemins qui arrêtaient les bus et dépouillaient les voyageurs. Donc un état où constamment on est arrêté, on ne sait pas si c'est des voleurs, si ce sont des policiers qui montent avec des torches, nous demandent des pièces d'identité, on vérifie s'il n'y a pas des armes, etc. Donc on ne sait plus où on est dans un état un peu d'inquiétude, mais en même temps on est vivant, on voit par la fenêtre l'éclat des étoiles qui scintillent dans le ciel. Donc il y a quelque chose d'intensément présent, mystérieux, à la fois inquiétant. Et en même temps, j'ai l'impression, par exemple, cet étrange pays dont je parle, c'est être toujours sur une frontière entre la vie et la mort, mais c'est la vie, finalement. C'est la vie. J'ai une amie qui me disait, mais ton livre, c'est la vie vivante. C'est-à-dire que, effectivement, ça fait un peu durasse comme formule, mais c'est vrai qu'il y a ce poids de la mort, de l'ombre qu'il y a dans la vie. Et finalement, en permanence, on s'endort avec l'habitude et finalement avec les mots qu'on met sur les choses, on ne voit plus les choses telles qu'elles sont dans leur étrangeté de toujours. Ça fait un petit peu comme dans Camus ou dans Sartre, son expérience de l'étrangeté, quand on se débarrasse du langage ou qu'on se débarrasse de l'habitude qu'on a de nommer un arbre, un chat, et on voit la bizarrerie de ce qui s'offre au regard avec des anfractuosités à n'en plus finir, de l'ombre.
C'est aussi ça la crudité, hein. C'est pas que le vécu du corps, les soins qu'on vous apporte, les opérations, c'est une manière dans le texte de dénuder le réel, au sens d'oublier un poil ce qu'on sait en effet de nos habitudes du langage et d'essayer de voir comment ça se passe quand on a fait cet acte-là. Mais Gérard Allaire, qu'on entendait à l'instant, c'est un homme qui a écrit des textes sur des images d'un photographe qui s'appelle Alain Vilhomme. Vous avez amené des photographies avec vous, là, juste là.
Oui,
c'est des photographies que vous avez prises, vous ?
Oui, c'est des photographies de mes petites marches en montagne. Et je les ai récupérées hier soir. Donc, c'est des photos...
En noir et blanc.
En noir et blanc, avec la neige qu'il y avait il y a 15 jours. Et vous citiez Alain Vilhomme, et Alain Vilhomme, c'est un nom important pour moi, parce que quand j'étais en Inde, j'avais découvert des photos qu'il avait faites de personnages, parce que je crois qu'il a vécu en Inde, ou il a travaillé en Inde à un moment, et il a photographié des ouvriers ou des travailleurs avec souvent quelque chose qui voilait leur regard, voilait leur visage. Et c'était un moment où j'avais envie de photographier des disparitions. Et ayant vu ces photos, je me promenais régulièrement tous les dimanches dans Old Delhi et je photographiais comme cela des gens qui portaient des foulards, etc. Et par hasard, j'ai photographié des dormeurs. Et après, voyant ces dormeurs sur la planche contact, les voyant à l'envers, c'est-à-dire les regardant verticalement alors qu'ils étaient allongés, je me suis mise à faire toute une série de dormeurs que j'ai appelés, pardon pour le mauvais accent anglais, vertical sleepers. Et c'est-à-dire que je me penchais en photographiant les dormeurs comme s'ils étaient debout, comme si je faisais un portrait en contemplant une personne. Et je les ai présentés dans des expos comme des grandes stèles, en quelque sorte. Et c'est vrai que les photos de Vilhomme étaient au départ de cette démarche. Parce que c'est quelqu'un qui est très fasciné aussi par les frontières, les moments d'entre-deux, on ne sait plus où on est. Il a des photos avec souvent de la brume qui tombe du ciel ou des... Effectivement, de la nuit aussi dans ses photos, quand il va photographier des soldats qui convoient des chars, ou je ne sais plus, on a à peine la face qui apparaît, ou le profil qui apparaît sur un fond d'ombre. Alors, je ne sais pas s'il le reprend, s'il retouche pour obtenir cette nuit en arrière-plan, mais la nuit est très importante dans ses apparitions, disparitions.
On va laisser Vilhomme ici et encourager nos auditrices et auditeurs à réécouter un entretien puisqu'il est venu parler récemment d'une grande monographie consacrée à son travail photographique. Mais peut-être avancer avec vous dans les nuits à l'hôpital, puisque vous parlez de ces nuits dans les autobus qui remuent en Inde, mais la nuit elle est aussi remuée à l'hôpital par d'autres choses, à l'hôpital ou dans les centres de convalescence. Ce sont des nuits au goût de quoi que vous décrivez, Colette Mazabrar ?
J'allais dire au goût de sang et de métal, parce que...
Et ce goût de métal, il revient très souvent.
Ouais, c'est, je pense que le goût de métal, bon, il peut-être qu'il est lié au sang, parce que dans le sang, il y a du fer, enfin, donc, mais le métal, il intervient aussi à l'hôpital, parce que, enfin, c'est le métal fantasmé de la chirurgie, parce que, je pense qu'ils ont des choses plus délicates. Je ne sais pas comment il y a un bistouri électronique, mais bon. Et après, le métal de tous ces chariots sur lesquels les infirmières convoient toutes sortes de piluliers, toutes sortes d'instruments. C'est vrai que les nuits, elles sont heurtées à l'hôpital parce qu'il y a un rythme des soins. Il y a les alarmes. Et puis, dans ces centres de convalescence où finalement peu de gens souhaitent aller parce que de plus en plus on privilégie les soins à domicile parce que beaucoup de gens sont des personnes âgées à la limite de la démence ou d'Alzheimer etc. Et il y avait des femmes qui hurlaient quoi la nuit qui répétaient de façon lancinante les mêmes phrases de façon complètement atone souvent venez m'aider. J'ai mal, venez m'aider. Avec aucune attente de qu'on réponde à cette demande finalement. Et on entendait aussi le vent dans les arbres, les animaux, parce que j'avais la chance d'être dans la deuxième convalescence dans un endroit près de la rivière l'Ariège. Donc il y avait des arbres avec des oiseaux, des frelons asiatiques, etc. Donc la nuit, elle est vraiment bousculée. Et puis toutes les voix qui reviennent, que ce soit les voix des soignants, que ce soit les voix des patients.
Et que vous faites entrer dans votre texte, parce oui. qu'on a beaucoup parlé de la solitude de ce tu que vous adressez au lecteur, mais en fait beaucoup à vous-même, Colette Mazabrar, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce texte qui est que plein de gens parlent. Plein de gens qui vous entourent à l'hôpital, que ce soit les médecins qui vous annoncent des choses ou en effet cette femme qui parle dans la nuit, comme si vous aviez, en consignant leurs paroles, presque ouvert les portes, je sais pas, de votre chambre d'hôpital ou de votre chambre mentale, mais il y a vraiment l'idée d'un texte qui est presque ouvert aux quatre vents, quoi, à qui est de passage.
Oui. Oui, oui. Alors les paroles, effectivement, elles viennent de ce que j'entendais dans les réfectoires, puisque on a beaucoup de moments communs dans mes promenades. Effectivement, j'ai ce plaisir de les consigner, et c'est vrai qu'on est dans un monde fascinant parce que dans un hôpital, il y a des gens de un peu toutes les conditions sociales, pas trop de tous les âges, il y avait pas trop de jeunes. Et c'est vrai que j'aimais aussi parfois les faire parler. Par exemple, il y a une dame, je vois, parce qu'on avait des petites étiquettes avec notre numéro de sécurité sociale, donc je pouvais connaître la date de naissance des gens. Et je vois une dame née en 39, donc je lui pose la question... Je sais pas, ça m'obsédait, enfin, cette question, du moment où elle avait découvert son père. Et elle me dit qu'effectivement, elle a découvert son père quand elle avait 5 ou 6 ans, et que de là découlaient toutes ses maladies, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi, la crudité ou l'obscénité, c'est que on a, enfin, j'hésitais pas à poser non plus des questions, peut-être un peu, intime, mais comme le dit une autre dame dans d'autres circonstances, qui elle n'hésite pas à raconter sa vie dans les auberges de jeunesse, elle se sert des auberges de jeunesse un petit peu comme d'une espèce de psychanalyse, parce qu'elle parle sans conséquence aux gens en se disant qu'elle les verra jamais plus. Peut-être que j'ai cet usage de l'hôpital. Et du coup, ça me ramène à peut-être la gêne ou la honte de publier, c'est que il y a cette impression de prendre quand même des paroles des autres, d'en faire mon bout à bout, d'en faire mon montage. Ils en savent rien, ces gens-là. J'ai pris leur voix.
Mais c'est très vivant, en revanche. Ce qu'on pourrait vous opposer, c'est que dans un moment où éventuellement la vie elle est bousculée ou fragilisée, on vous sent attentive.
Mmh. Oui, oui, oui. Et puis, bon, c'est vrai que c'est ce plaisir du montage, du collage, d'écouter des voix. Et en plus, ces gens qui sont des années 30 ou même plus anciens, j'ai l'impression qu'ils véhiculent d'autres façons. Ils ont d'autres façons de parler, ils véhiculent d'autres histoires, d'autres relations à la maladie.
Ils ne sont pas toujours très agréables à écouter. Hein. Non, mais c'est vrai, je veux dire, même à les lire parfois. Ils véhiculent parfois des visions du monde ou des...
Oui.
Des visions qu'on pourrait qualifier de, je sais pas, conservatrices ou même à la limite du racisme parfois. Mais ils entrent, vous les faites entrer
oui.
volontiers.
Oui, oui. France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Colette Mazabrard.
Scared today. Write down, I am okay. 100 times, the doctors say. I am okay. I am okay. I'm not okay. Skin is crawling off, mopping the sweaty drops, sticking around for this shit.
Simplement que nous sommes chacun à des moments de la journée, de notre vie, étrangers à nous-mêmes. Je me regarde et je m'étonne, dit Aragon dans un poème qui s'appelle Enfer, que j'ai relu récemment, que j'ai trouvé magnifique. Je me regarde et je m'étonne. Suis-je moi ? Je qui suis-je ? Et donc, est-il plus étranger à lui-même que nous le sommes chacun ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Pas plus, peut-être. C'est possible que nous refusions chacun cette part étrangère en nous, et pourtant, nous faisons un lapsus. C'est l'étranger qui parle en nous. Nous découvrons un désir incongru. Comment moi, je désirerais cette chose ? Je désirerais je ne sais quoi d'abject. L'étranger se manifeste à tout bout de champ, j'ai presque envie de dire. Mais même dans le simple fait de passer devant une vitrine, est-ce moi ? Ou se regarder dans le miroir. Enfin, il me semble que les occasions de rencontrer son étrangeté sont nombreuses, me semble-t-il. Que si nous sommes un petit peu en paix avec cet étranger qui gît en nous, je le fais mort là. on le sera sans doute, on sera peut-être plus accueillant devant l'étrangeté de l'autre, peut-être. Ce noir en soi, cette opacité de nous à nous, cette impossibilité parfois de se réconcilier ou de coïncider simplement avec nous-mêmes, simplement. Si on la supporte en soi, peut-être la supportera-t-on chez l'autre.
C'est la voix de Lydie Salvert qui était venue nous parler ici, à Par les temps qui courent, de son texte « Tout homme est une nuit » et qui parle de la maladie pour son personnage comme un moment
plus ou moins heureux de rencontrer l'étrangeté en soi-même. Colette Mazabrar, si on tire ce fil-là, évidemment, on parle du titre que vous donnez à ce texte, Un jour on entre en étrange pays, mais on arrive aussi à la manière dont ce texte avance, se développe, s'imagine, et tous les étrangers qu'il rencontre. Commencer par les personnes assises à la table du réfectoire, jusqu'à des réfugiés, des migrants à Athènes, à Paris ou dans d'autres villes. Est-ce que c'est un chemin, ce chemin-là qui sort de l'hôpital, qui va vers l'autre, auquel vous vous attendiez en commençant l'écriture du texte, qui commence vraiment très proche du vécu malade?
Je crois que c'est pas prémédité comme texte, c'est-à-dire que la totalité est le journal de ses marches pour reprendre pied et reprendre comme les chemins d'ici, enfin même s'ils vont ailleurs pour se retrouver ici, pour retrouver le fil de la vie, c'est-à-dire que je reprends progressivement les voyages que je pouvais faire pour les monologues de la boue. Même si dans un premier temps, c'est des voyages à l'étranger, donc pas forcément l'itinérance, mais il y a ce retour dans la vie voyageuse que je pouvais avoir avant l'hospitalisation. Donc je peux pas dire que ça soit prémédité pour construire un livre, c'est prémédité pour reprendre mon corps, quoi. Enfin, pour réhabiter mon corps, pour réapprivoiser ce corps charcuté, quoi. Enfin, ce corps qui au début savait pas trop s'il allait pouvoir marcher en portant plus d'un kilo, parce que quand on a différentes cicatrices sur le ventre, il faut pas porter plus d'un kilo. Donc peu à peu, j'ai repris les marches en sauvage, et je pensais l'étrangeté, Enfin, si j'ai bien compris ce que disait Lydie Salvers, elle parlait d'une étrangeté qu'on devait accepter en soi. Et j'ai l'impression que dans les monologues de la boue, ma propre étrangeté, elle existe dans cette femme qui marche seule, qui a pas trop de sexualité finalement, et qui, par contre, vit ses nuits avec les bêtes, dans les bois. Et qui prend plaisir à découvrir par hasard le fait de passer une nuit dans la forêt, à entendre que les souffles des bêtes, que apprivoiser la peur de ses cris, et y trouver plaisir. Donc c'est une sauvagerie, c'est une bizarrerie, c'est une étrangeté par rapport à la société que j'ai apprivoisée et que j'apprivoise peut-être en publiant aussi, c'est-à-dire en lui donnant une forme, en disant bon, ça existe aussi. Ça, on est dans un pays qui a des gens comme cela, et qui peut-être, enfin, c'est peut-être bien un pays qui accepte tant de différences aussi.
Est-ce qu'il y a des métaphores qui guettent quand on commence à écrire sur le cancer, et justement qu'il faut réussir si tel est l'enjeu, hein, mais à décrire une forme d'étrangeté en soi, puisque très souvent la tumeur, elle peut prendre plein de noms, plein de formes, plein d'images dans les textes qui s'y attaquent. Est-ce que vous avez voulu les déjouer, Colette Mazabrar? Est-ce que vous êtes méfiée de la manière dont on parle d'une tumeur?
Non, j'avais pas. En fait, j'avais pas spécialement lu de textes sur le cancer, ni je savais pas grand chose sur
cette. Même parfois dans le langage courant, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette espèce de quand on dit cette chose en moi, ce crabe.
C'est plutôt les métaphores qui me gênent. C'est plus l'idée de combattre cette maladie, c'est cette bataille, c'est cette idée de courage, en fait, pour c'est plus l'affrontement qui après j'ai pas trop en tête des images sur la maladie elle-même.
Mais d'ailleurs, vous lui substituez un autre champ lexical ou d'autres gestes. Oui, mais aussi le bercement, c'est-à-dire c'est pas du tout combattre qui revient le plus dans votre texte, Colette Mazabrar, c'est l'idée de bercer des endroits de son corps.
Oui, c'est effectivement prendre soin de de ce qui a été mutilé, ce qui a été abîmé. Et effectivement, prendre soin, prendre conscience de, par exemple, c'est effectivement, on revient souvent l'idée de bercer le moignon du rein, enfin de ce qui en reste. Oui, il y a cette idée de prendre soin de la partie qui a été malade. Comme si la, ne pas y faire assez attention était... Parce qu'il y a toujours la peur de se demander d'où c'est venu. Est-ce qu'on a bien pris soin de son corps? Est-ce qu'on a fait suffisamment attention à cette partie du corps? Et après, il y a toute une volonté d'essayer de prendre conscience de cela pour effectivement... adoucir la peur, parce que je crois que ce livre, c'est quand même un livre de panique, quoi, en fait, de comment éviter la panique, comment quitter la panique, comment ouais, c'est une panique qui démembre, quoi, en fait, qui comme si la panique, comme si la peur générer le cancer aussi.
Mais d'ailleurs, vous notez quand même dans ces pages que dans ce que vous lisez ou dans ce que vous écoutez, on mentionne que dans les biographies des personnes qui sont atteintes à un moment donné de leur vie par des cancers, elles ont subi un choc ou un deuil dans les 2 ans qui ont précédé. C'est-à-dire que votre recherche personnelle, elle rencontre aussi des recherches collectives, des recherches diverses, voire des recherches de la recherche scientifique. Vous êtes aussi allée sur ce terrain-là, Colette Mazabrard, en écrivant, ou c'est juste le fruit de votre oreille qui traîne à l'hôpital?
Non, je l'ai. En fait, c'est cette idée de perte ou de douleur, ça vient d'un livre de Anne Ancelin,
la fameuse,
moi, la fameuse, qui a écrit un livre sur qui s'appelle Vouloir guérir, sur les techniques ou ce qui pourrait bloquer, faire obstacle parfois aux guérisons. Et il y a une réflexion sur l'influence d'émotions trop douloureuses ou mal vécues, ou de secrets de famille, ou de deuil mal fait, ou de rupture qui générerait une baisse des défenses immunitaires et une fragilité qui fait qu'on est... sensible à la maladie, et enfin qu'on devient une proie de la maladie, et qu'il faudrait pour en parallèle aux soins qu'il faut veiller à la confiance, quoi, enfin travailler la conscience, travailler les énergies pour améliorer ses défenses.
Vous utilisez un mot qui est mystérieux pour moi, qui est le dharma. C'est quoi?
Oui, et j'avoue que on m'a posé récemment la question et je me suis dit mais qu'en fait ce mot, finalement, je ne savais peut-être pas ce qu'il voulait dire. C'est un mot que j'emploie parce que ayant vécu en Inde, ayant pratiqué de la méditation, j'ai l'impression que c'est un mot qui intervient quand on veut dire que les choses sont, qu'on se pose dans les choses, qu'on se pose dans le présent, qu'on se pose dans quelque chose sans le juger. Et c'est un petit peu comme cela que j'emploie un moment où on fait une
halte, on est en
halte paix. On renonce à chercher des explications. On regarde les choses telles qu'elles sont et on est là à sans juger. C'est dans ce sens-là que je le prends. Je suis pas sûre que ce soit le sens véritable que le mot.
Jour de l'an, Vias. Il n'y a que le léger vrombissement du vent dans le tuyau du poêle à bois. Parfois le crépitement d'une bûche. Une bourrasque de pluie frappe la baie vitrée. L'eau a noirci le côté nord des troncs. On dirait des giboulées, tout est chamboulé. Au champ, 3 perdrix volaient, le lapin noir ne t'avait pas vu. Avant-hier, annoncé par ses cris, un vol en V de grands migrateurs blancs. Des oies? Le lendemain, de la taille de cigognes grises, tournoyant au-dessus des toits du village, d'autres migrateurs en vol vers l'ouest. tu écoutes. La bouillotte siffle. Un genêt était en fleur. Tout est déréglé. Tu attends une accalmie pour aller dans les embruns. Quelque chose d'obscur te pince le cœur. Les pluies viennent de la mer. Une voiture passe dans les flaques. Le goudron ventouse. Des poireaux clairs poussent dans les fossés. Des goélands crient. C'est la pluie encore, métallique sur le toit. Le ciel est noir. Les dattes ont sucré la bouche. Dans la pièce, il reste collé dans les angles, dans les barbes d'une plainte, du duvet. La sauvagine pénètre la narine gauche. L'odeur du gibier monte pincer un cartilage spongieux, se loge loin, à l'angle de la pommette. Le sinus pique. La viande est faisandée. La bécasse inverse goutte dans une cave. Elle mûrit. Dans l'hiver, tu apprivoises le corps nouveau. Chaque matin, sous la couette, tu récites les gestes à venir. Gestes que tu ne veux toutefois plus accomplir. Tout est devenu trop lourd. Le pied pourtant souhaite être de la partie. Il te mène, mains enfoncées dans les poches, dans la pluie et le vent. Le froid brûle les joues. Des corneilles et des pies crient. Un jour, tu découvriras la merveilleuse douceur de la pie, la légèreté de son corps si souple, ta paume en caressera l'incroyable soyeux. Au champ, une buse appelle. Les nuages passent vite. La pluie a alourdi les aiguilles de pin, des sabots cognent la terre, le son est mat. Le jeune cheval hennit et caracole. De ses dents, il cherche à attraper le cou du plus clair. Les nuages viennent de la mer, noirs. Tout au long des heures, ils auront décidé du jour. Tu devras te souvenir du silence de ce matin, le garder comme un refuge pour les jours à venir. Le pied te mène, mains enfoncées dans les poches, dans la pluie et le vent, mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas encore. Quelque chose noir est là, quelque chose noir inquiète. Il va falloir ajuster. Ajuster ton corps et ton cœur, les coupler.
Colette Mazabra, Romain de Bec de Lièvre lit un dernier extrait de votre texte « Un jour, on entre en étrange pays ». Et c'est un des moments du texte où, comme on l'entend, le corps nouveau est apprivoisé et presque la sensation de lecture, c'est quand on a eu des fourmis dans les jambes qui a rendu insensibles nos pieds, nos mollets, pareil dans les mains et que petit à petit ça revient. Et c'est vraiment un texte qui fonctionne comme ça, c'est que petit à petit plein de sensations reviennent et la sensorialité même de l'écriture, elle est comme rendue hyper active. Et c'est un texte qui se relie très directement au monologue de la boue parce que grande présence du vivant, des animaux, des arbres et des saisons. Tout à l'heure, vous disiez qu'une amie vous avait dit c'est un texte de la vie vivante, mais c'est comme ça qu'il se termine, non ?
Oui, il se termine effectivement sur une vague qui s'enroule et je tourne autour du mot, mais qui finalement s'accouple avec des surfeurs et qui s'embrassent à n'en plus finir. Et c'est vrai que dans ce texte, ce qui revient assez souvent, et même dans les monologues, c'est se frotter au paysage, c'est aller dans le paysage, manger du paysage, s'endormir, embrasser le paysage.
Une érotique de ça, très forte,
oui,
en fait.
Oui, finalement, la sensualité ou l'érotisme passe pas avec les gens, mais passe effectivement avec ce corps de la terre et des animaux, et cette vie élémentaire qui peut être la pluie, qui peut être le plaisir de construire un feu dans les montagnes. Ça, j'en parle pas trop dans ces marches-là, mais ce plaisir de redécouvrir la sensation de la pluie, le vent, même déjà dans les hôpitaux, les premières marches à l'extérieur des chambres, il y a le plaisir de sentir le vent sur la peau. Donc il y a ce mouvement effectivement vers la nature qui donne l'énergie de vie et le plaisir.
Merci beaucoup, Colette Mazabrard. Un jour, on entre en étrange pays et Monologue de la boue sont tous les deux publiés chez Verdier. La prise de son ce soir, c'était Marie Le Peintre, à la réalisation Perret Le Gras. Par les temps qui courent, c'est Louque Vauvillier, Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Valentin Rémy. Merci à elles, merci à eux. FranceCulture.fr pour toutes les informations, archives, musique, le reste. FranceCulture.fr, c'est aussi le lieu où s'abonner au podcast. Dans un instant, le journal sur France Culture. À demain.